Bien, bonsoir Jean-Marie Schaeffer. Je suis très heureuse de vous accueillir donc à Bordeaux dans le cadre donc chez Mola et dans le cadre de la 16e édition très barthésienne du festival Ritournelle, festival de littérature et d'art contemporain. Vous venez de publier un livre aux éditions Thierry Marchès qui s'intitule Lettres à Roland Barthes. Vous êtes philosophe, vous êtes théoricien et vous êtes spécialiste de la réception esthétique et de la théorie des arts. Vous êtes aussi directeur de recherche au CNRS et vous publiez des livres très régulièrement, des essais essentiellement, puisque vous êtes avant tout philosophe, aux éditions Gallimard, au Seuil et chez des plus petits éditeurs, mais qui sont tout aussi importants, notamment les éditions Thierry Marchès. Vous publiez donc un ouvrage qui est, à mon sens, très barthésien. Alors, c'était peut-être la commande qu'on vous avait faite, hein, d'écrire un livre barthésien. J'en suis pas sûre. J'ai plutôt l'impression que, en tout cas, en lisant votre livre, qui est absolument passionnant, que ça s'est imposé. Ça s'est imposé et que peut-être vous l'êtes de toute manière. Parce que votre texte mêle dans un seul mouvement la théorie et l'intime. Et nous allons tenter de synthétiser ce qui se passe dans ce livre. Alors, le centenaire de Roland Barthes a généré un grand nombre de publications cette année, notamment l'excellente biographie de Tiphaine Samoyau dans le domaine de l'histoire littéraire, ou encore Roland Barthes, le métier d'écrire d'Éric Marty, que vous avez sans doute lu, un livre plus intimiste, puisque Éric Marty a été proche du sémiologue, ou encore l'ouvrage de Didier Arnaudet sur Pascal Cauvert, ce grand artiste très barthésien, commence alors la grande lumière du Sud-Ouest, qui est plutôt une monographie barthésienne sur l'artiste. L'intime est encore très très présent dans ce livre-là. Et vous, votre démarche est tout autre, parce que vous n'avez pas personnellement connu Roland Barthes, et en même temps, votre livre parle de l'intime, puisque vous écrivez une lettre à Roland Barthes, donc à quelqu'un de mort, et que l'écriture de cette lettre vous ramène à votre passé et à votre histoire. Alors, la lettre à Roland Barthes, moi, je l'ai lue comme un livre un petit peu en deux parties. La première, rendrait compte, est en train d'expliquer l'objet même de cette lettre, tout en délivrant un attachement vif et intime à l'œuvre du sémiologue. En analyste et en théoricien, vous vous penchez sur la question de l'adresse par la lettre. Ça, c'est un peu la première partie, qui est très personnelle. Et puis la seconde partie, plus théorique, mais personnelle également, puisque vous revenez sur votre passé, creuse les raisons de cet attachement à l'œuvre, en revenant au cœur de l'œuvre et tout en mettant en perspective la manière dont les travaux théoriques de Roland Barthes, repris et poursuivis, ont évolué depuis sa mort. Alors, les chapitres, la deuxième partie comprend des chapitres dont nous pourrons peut-être parler ensemble. Donc, les chapitres s'intitulent, le premier s'intitule « Le poids des mots », le deuxième s'intitule « Indiscipline », le troisième, l'homme structural. Le quatrième, le théoricien et la science de la mini-jupe. Le cinquième, innombrables sont les récits, qui est une citation magnifique voilà, que vous aimez beaucoup. Voilà. J'ai relevé dans ma lecture un certain nombre de thèmes et de sujets que vous mettez en avant dans ce livre et que vous partagez avec Roland Barthes et qui expliquent pour moi votre attachement à l'œuvre. Et ces thèmes, je vous les donne comme ça et après je vous propose de nous en parler, si vous le voulez bien. Donc le premier thème, ça serait théorie, anti-théorie et entre guillemets un nouveau monde. Le deuxième, la question centrale du récit. Et la place cruciale, selon vous, du texte de Roland Barthes, Introduction à l'analyse structurelle du récit. Le troisième thème que j'ai beaucoup aimé, c'est l'indiscipline, bien sûr, face à l'idée d'expérience esthétique, notamment. Le quatrième thème serait l'importance du style chez Roland Barthes. Et on peut dire que le style est important aussi chez vous, à lire votre livre. qui est très très bien écrit et très personnel dans l'écriture. Et le cinquième, mais il y en a d'autres, hein, ce serait la mise en relation entre le structuralisme et l'activité poétique, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Alors, je vous laisse la parole.
Très bien. Ça fait beaucoup de questions et je crois que je vais parler. Vous allez me les rappeler.
Peut-être un mot
avant que je réponde à la première question sur le, effectivement, ce drôle d'ouvrage et sur la commande. En fait, la commande était simplement d'écrire une lettre. Voilà, c'était le genre qui était fixé. Et c'était ce qui, au départ, voilà, m'avait fait dire non, parce que je me voyais mal écrire une lettre d'abord à une personne morte, ensuite à quelqu'un de la stature de Roland Barthes. Et je ne voulais pas tricher, c'est-à-dire que si je devais écrire une lettre, ça devrait vraiment être une lettre, c'est-à-dire une lettre personnelle et non pas un texte caché sous la dénomination d'une lettre. Mais au fur et à mesure que je réfléchissais à mon refus, eh bien, ce qui est remonté en moi, c'était mes lectures, en fait, de Roland Barthes, lectures qui m'ont accompagné depuis mon adolescence, je peux le dire. Et j'ai trouvé que la porte d'entrée dans ce qui se voulait quand même une sorte de déclaration d'amour, parce que je crois que ça ressort du texte, c'était eh bien, tout simplement de raconter ce que Barthes avait été pour moi. C'est-à-dire beaucoup de choses différentes, mais toutes des choses qui ne se passaient qu'en mon fort intérieur, puisque je n'ai jamais connu Barthes, bien que j'ai connu certains de ses amis et de ses disciples. Donc, voilà, écrire une lettre à quelqu'un qui est un personnage qu'on a porté en soi, ce qui nous arrive à tous, pour beaucoup de personnes qui ne sont pas nécessairement des écrivains. Mais voilà, donc c'était cette relation-là et montrer que porter quelqu'un en soi, c'est le maintenir en vie. Et même s'il est mort physiquement, si on veut être fidèle à soi-même et à ce que cette personne comporte en soi, eh bien, il faut continuer à dialoguer avec lui et à le considérer comme un être vivant. Et je crois que l'ensemble de cette lettre voilà, ne trouve de justification que pour autant que je réussis à faire continuer un Barthes, qui est un Barthes intime, comme vous l'avez dit, mais qui est aussi un Barthes, finalement, en quelque sorte interne, quelqu'un qui parle en moi et à qui je réponds ou qui, il ne le sait pas, mais qui me répond aussi. Donc ça, c'était un peu le contrat. Mais en même temps, je suis, effectivement, comme vous le dites, philosophe et théoricien. Donc, ce qui m'a attiré dans Barthes, c'est aussi ce qu'il écrivait. C'était la façon dont il écrivait et ce qu'il écrivait. Et c'était la manière de tenir les deux bouts ensemble, écrire des choses nouvelles, donnant à penser, donnant beaucoup à penser, et en même temps les écrire de telle façon qu'on ne pouvait pas les abstraire de la manière dont elles étaient écrites. Et ça, c'est la question du style, peut-être, à laquelle on va revenir plus tard. Et donc, j'ai essayé, et cela explique ce double mouvement d'une approche intime et privée, y compris en ce qui me concerne, puisque je raconte un peu comment j'ai grandi, mais aussi une adresse directe, effectivement, à Roland Barthes, avec cet effet qui, pour moi, m'a toujours étonné, c'est que Roland Barthes est d'une génération qui précède mes parents, mais pour moi, c'était quelqu'un qui venait après mes parents. Mes parents étaient plus âgé que lui dans ma chronologie personnelle, pour des raisons dont j'en parle un peu dans le livre.
Alors justement, l'une des premières thématiques que je voulais mettre en avant, c'était la question de l'indiscipline et qui vous ramène à votre jeunesse.
Oui. Mais c'est pas que ma jeunesse, c'est la jeunesse d'une grande partie des gens de ma génération, c'est les années 60. C'est pas mai 68, c'est ce qu'il y avait avant. Et pour moi, Roland Barthes a été, enfin, c'était une découverte éblouissante parce que j'ai découvert Critique et vérité. Je suis originaire du Luxembourg, donc en plus je l'ai découvert en allemand. C'est Critique und Wahrheit, et il y a un texte célèbre de Goethe qui s'appelle Dichtung, poésie et vérité. Et donc pour moi, Barthes, de ce fait, parce que je l'ai lu d'abord une fois en allemand, reste aussi lié à Goethe. Et donc, en fait, aussi au romantisme, ce qui me fait retrouver son amour du Lied allemand et de Schubert. Donc, je l'ai connu à un moment où on peut dire que, et je crois que c'était pareil en France à ce moment-là, tout était un peu bouché. C'était une société très refermée sur elle-même, très conventionnelle, où la discipline, dans tous les sens du terme, y compris lorsqu'on étudiait, on avait des disciplines et il fallait rester dans les frontières des disciplines, était très, très, très important. Et voilà ce livre qui est une réponse à justement cet esprit de discipline et qui répond en disant non, ce n'est pas comme cela qu'on pense ou qu'on peut penser, ce n'est pas comme cela que nous voulons penser ou que je veux penser. Et il n'était pas le seul à le dire. Et pour moi, ça a été une sorte de, d'abord de découverte, mais aussi d'aide, et d'aide loin au-delà du moment où j'ai découvert ce livre. Parce que dans la carrière universitaire, qui est après devenue la mienne, eh bien, la question de la discipline, des disciplines et de la discipline a toujours été aussi très, très importante institutionnellement. Et je trouve que la position en retrait de refus, non pas agressif, mais tout simplement de ne pas se laisser entraîner dans ce rouleau compresseur, qui était l'attitude de Barthes, reste toujours exemplaire. Mmh. Et critique et vérité, c'est cela, c'est essentiellement une défense de l'indiscipline, mais c'était aussi une réponse à une agression qui était quand même très 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 violente. Enfin, on oublie, et je dois avouer que moi aussi je l'avais oublié, mais en relisant Critique et vérité pour le petit livre, j'étais frappé à quel point son travail sur Racine avait provoqué des réactions de rejet très très fort d'une grande partie des journalistes, en tout cas de l'époque, et puisque ça allait de journaux d'extrême droite jusqu'à
les universitaires.
C'était
évident.
C'était évident, je crois, vu les circonstances. Mm. Ce serait sans doute différent aujourd'hui, mais à l'époque, c'était il fallait sans doute s'y attendre, mais aussi des journaux, y compris un journal comme Le Monde, qui après a quand même fait de Barthes un grand auteur. Donc c'était vraiment une époque très très particulière. Et ce texte de Picard dirigé contre le travail de Barthes sur Racine, il y a eu une véritable tentative de mise à mort. Et on a souvent dit que le livre de Barthes était violent. Mais quand on lit les textes cités qui étaient publiés par les journaux ou par des intellectuels, eh bien, on est frappé au contraire par le peu de violence qu'il met en œuvre lorsqu'il répond. Il répond au contraire avec beaucoup d'élégance et surtout en n'entrant pas dans le jeu de la polémique, mais en décortiquant les positions de ceux qui l'attaquent. En leur appliquant ce qu'il avait fait dans Mythologie pour mille autres choses, en disant, mais voilà, vous dites cela, mais à travers ce que vous dites, en réalité, voilà les présupposés, voilà les valeurs que vous mettez en œuvre et que vous ne reconnaissez pas officiellement. Mmh. Et donc, en ce sens-là, c'est un livre libérateur et qui a été libérateur, je pense, à ce moment-là et qui le reste, je crois, aujourd'hui.
Mmh. Bon, alors après, par rapport à vous et à votre carrière, l'introduction à l'analyse structurelle du récit a été un texte déterminant, qui vous tient encore aujourd'hui.
Oui, je pense que c'est pas un long texte, c'est un texte de circonstance, puisque c'est l'introduction à un numéro de revue. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve souvent chez le Barthes des années 60. Certains de ces textes les plus vivants encore aujourd'hui, c'est des textes de circonstance, et certainement des textes commandes. Et il est très bien quand il est face à une commande. Il a d'ailleurs dit, je crois, au moins une fois, qu'il n'écrit que sur commande. En tout cas, là, c'était vraiment des commandes institutionnelles. Et là, ce livre, ce petit texte sur l'introduction à l'analyse structurelle des récits, reste aujourd'hui, on l'oublie un peu, c'est-à-dire les littéraires l'oublient un peu, mais reste aujourd'hui un texte qui continue à être lu, par exemple, par les psychologues qui travaillent sur le récit, avec des méthodes très différentes de celles que Barthes avait envisagées, mais il garde cette idée très, très importante que, d'abord, le récit existe sous des formes innombrables, qui ne sont pas toutes verbales, mais même verbales, elles sont innombrables. On le trouve dans toutes les sociétés. Il remplit les fonctions les plus diverses, et on ne saurait pas les énumérer toutes, et il comporte à la fois des grandes œuvres et des choses les plus banales, voire des choses sans beaucoup d'importance. Mais c'est toujours cette même je dirais, ce même travail mental qui est celui du récit. Et l'importance de son petit texte, c'est d'avoir montré qu'il y a dans notre fonctionnement, dans notre esprit, un type de rapport au monde absolument fondamental qui est la narrativité, la narrativisation plutôt. Le fait que, pour nous expliquer à nous-mêmes ce que nous sommes, pour expliquer à autrui ce que nous sommes, pour comprendre les choses, eh bien, nous avons tendance à raconter des histoires. Et nous le faisons dans toutes les cultures du monde. Et voilà. Et il a montré ça. Et donc, ce qui est important surtout, c'est qu'à cette époque-là, pour lui et ses collègues, comme Gérard Genette, Todorov et d'autres, c'était tous les récits qui devaient être pris en compte. Il ne devait pas y avoir de ségrégation entre littérature noble, récits savants, et les autres récits. Mais qu'il fallait d'abord essayer de comprendre ce qu'il y avait de commun entre toutes ces formes différentes, parce que ce qu'il y avait de commun était censé nous faire comprendre pourquoi, par exemple, un enfant peut passer de récits très, très simples et puis devenir adulte, et puis lire des récits très compliqués, Finnegan's Wake, à la limite, s'il arrive jusque-là, mais Balzac est très compliqué, Flaubert est très compliqué, Proust, n'en parlons pas. Comment, avec le même esprit, quelqu'un peut, à partir de son enfance, peu à peu, apprendre à comprendre des récits de plus en plus compliqués. Et pour ça, il faut comprendre quelle est, en quelque sorte, la structure mentale de base que tout enfant développe dans ses interactions avec ses parents, et qui lui permet de structurer des événements de tous les jours sous la forme d'un récit. Et c'est sur cette compétence que se construit cet art énorme qui est devenu dans la longue durée de la culture humaine, l'art des récits. Et ça, c'est vraiment ce petit texte de Barthes le montre très 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 fortement. Et en tant que programme, eh bien, il reste toujours actuel aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays, plus qu'en France, en fait, dans beaucoup de pays européens, mais aussi aux États-Unis, l'analyse du récit, qu'on appelle parfois narratologie, continue à être développée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très vivant. C'est même un des rares exemples où on peut dire les études littéraires ont quand même un objet qui reste stable à travers plusieurs générations, ce qui n'est déjà pas mal. C'est vraiment un des seuls objets. Et ce qui montre bien que là, il y a du réel qui résiste et qui doit être, qui demande à être compris.
Oui, à un moment donné, vous parlez donc je vous disais tout à l'heure que ça m'intéressait beaucoup cette question du poétique, et vous mettez en relation, vous rappelez en fait le lien entre le structuralisme et l'activité poétique. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus aujourd'hui de tout ça ?
Alors, il y a beaucoup de liens. Il y a d'abord le lien historique, c'est quand même à travers Jacobson, et en partie à travers donc le linguiste Roman Jacobson, qui était par ailleurs un grand poéticien, donc un grand spécialiste de poésie et notamment de versification, que c'est à travers Jacobson que le structuralisme comme méthode, donc venant de Saussure et de Trubetskoy, puis passant par le formalisme russe, a été développé ou repris et développé en France. Donc il y avait d'entrée de jeu un lien entre analyse structurale, c'est-à-dire analyse formelle, il faut rappeler les choses simplement par leur nom, c'est une analyse formelle, et la question de la poésie, donc la question d'un certain usage d'un ensemble d'usages du langage, d'usages créateurs du langage. Et c'est un peu l'autre pôle. On a parlé du récit, mais il y a l'autre pôle qui est celui de la poésie. Et ce n'est pas la poésie simplement comme genre, mais c'est la poésie, comme faire, comme création à l'intérieur et avec les moyens du langage. Et Barthes, je pense que vous faites référence à ce texte dans lequel il parle de qu'est-ce que c'est que l'analyse structurale. Il dit, c'est construire des simulacres. Alors, le terme peut induire en erreur, mais ce qu'il veut dire, c'est construire des modèles, c'est-à-dire, c'est ce que nous faisons tout le temps. Lorsque nous voulons comprendre quelque chose, eh bien, nous construisons des petits modèles mentaux de la situation que nous avons à comprendre. Et plus la situation est complexe, et plus notre modèle doit simplifier pour que nous arrivions à mettre de l'ordre dans ce qui n'est que du chaos. Et il disait, eh bien, ce que les structuralistes font, c'est ça. Ils construisent de l'ordre, ou ils créent de l'ordre. Et ils créent de l'ordre en projetant des structures sur une réalité. Et ça veut dire, pas simplement extraire les structures de la réalité, mais ça veut dire apporter quelque chose de plus. Je crois que c'était ça, sa grande idée, c'était que l'analyse structurale, ou donc la modélisation, c'est ce que l'esprit humain apporte au monde, ce qu'il ajoute au monde. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. Lorsque nous percevons visuellement, eh bien, nous modélisons. Notre esprit ou notre cerveau modélise. Il fonctionne structurellement. D'ailleurs, il fonctionne au niveau le plus bas, la perception visuelle fonctionne sur des oppositions très simples, horizontales, verticales, etc. Et peu à peu, cette structuration devient plus compliquée. Et puis, il en sort. Voilà, eh bien, je vous vois, vous me voyez. Mais c'est fait à partir d'une décomposition de cette champ très compliqué. D'abord, on a des éléments très simples, à opposition binaire en général, et puis peu à peu, ça devient de plus en plus complexe. Eh bien, il disait, ce que le structuralisme fait, c'est des choses de ce genre. Or, disait-il, c'est exactement ce que fait le poète. Le poète modélise aussi, c'est-à-dire il construit de l'intelligibilité. Parce que construire un modèle, c'est ajouter au monde l'intelligibilité de ce monde. Et cela signifie que pour lui, le poète et la poésie est une activité, aujourd'hui on a des termes plus ronflants, on dirait une activité cognitive, c'est-à-dire est une activité de connaissante et est un rapport de connaissance au monde comme d'autres rapports, mais est un rapport spécifique et un rapport qui passe justement par ce mode d'usage très particulier de la langue, où apparemment la langue n'est cultivée que pour elle-même, mais où au contraire, à travers ce regard tourné vers l'intérieur, en fait, on retrouve l'extérieur dans ce chemin vers l'intérieur. C'est une idée qui n'est pas nouvelle. C'est exactement l'idée qu'avait développée, par exemple, le romantique allemand Novalis à propos de la poésie et plus généralement de ce qu'il pensait être l'avenir de l'humanité. C'était ce chemin vers l'intérieur qui est en fait non pas un chemin vers l'intériorité subjective et puis on s'enferme, mais qui est une manière de rendre intelligible le monde dans lequel nous sommes. Et la poésie, donc, pour Barthes, qui pourtant n'a pas écrit beaucoup sur la poésie, c'est pour ça que, un peu, je pense que quand il parlait de poésie, il pensait vraiment poésie, c'est-à-dire le faire aristotélicien, un peu comme en allemand, quand on emploie le terme de Dichtung, ça ne veut pas simplement dire poésie, mais ça veut dire l'ensemble des processus créateurs qui fonctionnent de la même manière, selon cette façon-là de voir. Donc, et la poésie serait simplement, en quelque sorte, le processus créateur dans lequel les particularités et les forces de ce rapport au monde éclateraient le plus clairement et on pourrait le mieux les observer. Mais elles ne seraient pas structurellement différentes de ce que fait un peintre, de ce que fait un musicien. Ils sont tous poètes en ce sens-là. Et c'était l'idée, en fait, déjà des romantiques. Et je pense que c'est l'idée de base du structuralisme appliqué à l'art. C'est que, fondamentalement, toutes ces pratiques ont la même logique. Et cette logique est une logique qu'il faut mettre en relation avec d'autres logiques de nos rapports au monde. Et donc, ça veut dire mettre fin à la séparation entre l'art et nos relations non artistiques au monde, en y voyant des variantes d'un même problème fondamental, comment nous rapporter à nous-mêmes et comment nous rapporter à ce qui n'est pas nous-mêmes.
Alors, dans cette lettre à Roland Barthes, vous pouvez aussi vous permettre, en fait, de vous adresser à lui en lui disant, voilà, le monde change et des universitaires continuent à explorer vos théories, vos analyses, etc. Et à un moment donné, alors je ne sais plus sur quel sujet particulier, mais vous lui dites, bon, ben voilà, je dois vous dire ça, mais je vous appelle... Il y a cette chose-là qui peut-être vous plairait, qui ne vous plairait peut-être pas tout à fait d'entendre.
Il y a cette question. Je crois que c'est à propos du récit. C'est la question du. Effectivement, aujourd'hui, quand on regarde qui étudie vraiment le récit, ce n'est plus les littéraires, ce sont les psychologues. parce que la psychologie a fait beaucoup de progrès, enfin, et la, notamment du point de vue de ce que nous savons concernant le fonctionnement du cerveau et ce que nous pouvons observer concernant le fonctionnement du cerveau. Donc, c'est les psychologues qui le font. Les psychologues le font dans leur perspective, avec des méthodes expérimentales et avec tout ce que cela implique. C'est-à-dire, on procède, on avance par petits pas, on se donne des petites phrases. Donc, ce n'est certainement pas la méthode qu'il aurait trouvée pertinente. Peut-être même plus, il aurait pensé que on perd beaucoup du récit et de sa richesse si on procède de cette façon-là. Mais peu importe, d'une certaine manière, après tout, je conclue, je crois, là, ce passage en disant il n'y a pas non plus de raison pour qu'on doive être solidaire de ce que les autres font de nos idées. Mais les autres ont aussi le droit de les développer de leur manière. Ça fait partie de la et lui était le premier à avancer de la sorte. Je dis qu'il me semble que peut-être il n'aurait pas aimé cela parce qu'il était quand même très opposé à ce qu'il appelait le positivisme. Et pour beaucoup de gens, la psychologie fait partie des approches positivistes de la réalité humaine. Je ne partage pas cette idée, mais voilà, elle est quand même très répandue et peut-être qu'il l'aurait partagée.
Alors, vous mettez aussi dans votre livre un texte en avant qui n'a pas été le texte le plus apprécié du temps de Roland Barthes, hein, Système de la mode. Et puis, vous précisez qu'en fait, ce texte était en avance sur son temps et même sur le nôtre.
Oui, donc Système de la mode depuis très longtemps, été présenté comme la caricature même de la méthode structurale. Et Barthes lui-même, lorsqu'il l'a publié dans sa préface, dit déjà « ce texte est daté ». Ce qui n'est pas vraiment incité le lecteur à le lire, mais il travaillait déjà sur SZ au même moment. Donc évidemment, ça pouvait paraître... C'était en décalage parce que ce travail sur la mode ou sur le discours de la mode, plutôt, ça remontait au moins à 62-63. Donc, c'est quelque chose qui, sans doute, était encore une commande, mais peut-être une commande qui lui a pesé, parce que c'était quand même un vrai ouvrage continu, long, très abstrait, très dense, mais vraiment très dense. Pas jargonnant, contrairement à ce qu'on dit parfois, mais vraiment très dense et ce n'est pas... Voilà, c'est pas le plaisir de la lecture, ça, je l'accorde volontiers. Mais c'est un livre qui, du point de vue de la compréhension des phénomènes culturels et d'une actualité, vraiment n'a rien perdu de ce qui était sa valeur à l'époque et a gagné. Je vais vite dire pourquoi je pense qu'il a même gagné. Le problème de Barthes, lorsqu'il voulait comprendre comment fonctionnent nos manières de catégoriser la façon dont nous nous habillons et quelles sont les valeurs qui s'attachent aux termes que nous utilisons, aux oppositions que nous utilisons, long, court, coloré, noir, blanc... Tout ce système. Donc, il voulait comprendre quelle est la logique de ce système, parce que, disait-il, il avait raison, le vêtement, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Nous mettons tous des vêtements. Donc, c'est notre façon de cacher notre corps, de ne pas le donner à voir, tout en le donnant à voir. Et c'est quelque chose qui, dans toutes les cultures, est un lieu critique. Parce que toutes les cultures se posent des questions. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre? Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Ça ne prend jamais, pas toujours des formes aussi virulentes que ça peut en prendre dans certaines sociétés, y compris aujourd'hui. Mais c'est toujours un enjeu qui semble mettre en jeu l'identité des personnes, pas leur identité intérieure, mais leur identité sociale. C'est-à-dire... S'habiller comme ceci ou comme cela, c'est jamais anodin. C'est toujours, ça peut être difficile. C'est beaucoup moins aujourd'hui, ce qui montre que la société a beaucoup évolué dans nos sociétés. Mais c'est même aujourd'hui quelque chose à quoi on ne peut pas échapper parce que nous ne pouvons pas échapper au regard d'autrui. Et ce regard tombe pas seulement sur notre visage, mais aussi sur nos habits, nos chaussures, etc. Et donc, il avait compris que pour comprendre une culture, eh bien, comprendre non seulement ce que les gens mettent, mais... Comment ils interprètent ce qu'ils mettent? Quelle est la signification de mettre une veste ou de ne pas en mettre, de mettre une cravate ou de ne pas en mettre, d'avoir une jupe de telle ou telle longueur, de mettre des bottes ou de ne pas mettre des bottes? Qu'est-ce que ça révèle sur le fonctionnement de la société? Et c'est ça qu'il voulait entreprendre. la limite qu'il y avait à son époque, c'est qu'il fallait qu'il fasse ça manuellement. Parce qu'il n'y avait pas de méthode d'analyse quantitative automatique pour les textes qui aurait pu lui permettre de mettre des milliers ou des dizaines de milliers de textes dans un ordinateur, de le faire mouliner l'ordinateur et qui lui aurait sorti tout ce qu'il fallait. Donc c'est assez limité. Il avait un corpus limité. Il a travaillé sur un corpus limité. Mais ça, c'est des limitations conjoncturelles. Mais l'idée qu'en étudiant le langage, de notre langage concernant notre vêtement, qui est notre deuxième peau, une peau sociale, ça nous permet d'apprendre des choses centrales sur nos sociétés et sur nous-mêmes. Je pense que ça reste toujours actuel. Et ça n'a jamais été vraiment fait, parce qu'on n'a jamais fait jusqu'à aujourd'hui de véritables sémiotiques ou analyses structurales des objets, des choses, et dont le vêtement fait partie. Son projet, au départ, était d'une ambition démesurée, parce qu'il ne voulait pas, au départ, étudier seulement le discours, mais vraiment aussi le vêtement.
Oui, et dans son histoire, et l'histoire du vêtement.
L'histoire du vêtement, les matériaux. Donc, et effectivement, c'est en cela aussi qu'il est en avance, parce que pour comprendre le vêtement, il ne suffit évidemment pas de comprendre le discours, ça c'est un aspect. Il faut comprendre aussi l'histoire des matériaux et surtout l'agencement entre les matériaux, et les créations, les créateurs, et les discours. Et en fait, c'était comme s'il avait dit, le vêtement, c'est le lieu où la mythologie de notre société peut s'observer à la fois dans ses constantes et dans ses transformations, puisqu'il pensait, avec un très célèbre anthropologue américain, que la mode a des cycles, et il pensait même qu'elle a des cycles qui ont duré déterminés, ça c'était l'anthropologue qui le pensait, mais il le reprend, ce qui est de 50 années. Tous les 50 ans, le cycle recommence d'après ça.
Alors vous expliquez qu'il s'est un peu trompé là.
Oui, mais c'est un peu, je blague un peu aussi.
La jupe courte ou longue.
Oui, voilà, il y a cette... Donc ce livre qu'il considérait comme étant... dépassé avant même d'être publié, a quand même trouvé des lecteurs. Et il a trouvé des lecteurs, notamment dans la presse féminine, qui s'intéressait à la mode. Il a donné plusieurs entretiens, et des entretiens, je trouve, très intéressants, à des journaux comme Elle. Je ne me rappelle plus quels étaient les journaux exactement. Et donc, une des questions portait sur la mini-jupe. Et ça me ramène à l'indiscipline, parce que c'était le début de la mini-jupe. Donc, c'était quelque chose, je peux vous le dire. Et donc la dame qui l'interroge est une journaliste d'un journal de mode, et elle lui dit, mais vous avez vu comment c'est devenu court, je crois que depuis la préhistoire, on n'a jamais connu quelque chose d'aussi court que la mini-jupe d'aujourd'hui. Donc c'était le début de la mini-jupe, et donc il répond très sérieusement, enfin sans doute tongue in cheek, il répond en disant, mais il ne faut pas voir les choses comme ça. Il faut penser que ce qui est court par rapport à ce qui, dans le même cycle, est long. Donc, il développe une théorie qu'en quoi, en 1900, les jupes étaient très longues, et que les jupes courtes des années 60, c'était simplement le cycle qui arrivait à sa fin. Et, disait-il, si je ne me trompe pas, en 2020, les jupes seront de nouveau longues. Donc, voilà, je discute un peu cette idée, vu qu'on est en 2015, mais on a encore 5 années. Ouais. Voilà, c'est pas sûr que les jupes seront... Mais c'est... Peu importe, mais ça montre bien la curiosité qu'il avait. Voilà. Pour un objet que beaucoup de gens auraient qualifié de futile, et je pense qu'il a compris à raison que ce n'était pas futile. C'était quelque chose où se mettaient en œuvre des modes de fonctionnement fondamentaux de nos sociétés, et donc quelque chose qui était important aussi pour les individus de cette société. Et en cela, c'est un travail qui reste à faire, je pense.
Alors, là, on ne va pas dévoiler tout le livre, parce que vous abordez tellement de sujets, finalement. Les sujets chez Roland Barthes sont innombrables. Donc, du coup...
C'est un des attraits qu'il a toujours eu pour moi, c'est-à-dire qu'il s'est toujours déplacé. Il n'a pas refait toute sa vie le même livre. Il n'a pas non plus creusé toute sa vie le même sillon. Ça peut être très bien de creuser le même sillon, parce qu'il y a des sillons qui valent la peine, et ça dépend du tempérament. Mais voilà, je pense que ce qui explique Mon attrait purement, c'est contingent, c'est parce que moi je suis moi, c'était cette idée de se déplacer toujours, de ne jamais rester sur un sujet, mais d'avoir une sorte d'impatience qui fait que eh bien, je vais aller voir ailleurs le prochain livre, je ne vais pas continuer. Il aurait pu continuer à être un grand spécialiste du récit, il aurait pu continuer à rester ou à devenir un grand racinien. Enfin, il aurait pu, à chaque livre, il aurait pu devenir un grand spécialiste de la photographie. Non.
Et pensez-vous qu'il serait devenu, comme certains le pensent, un grand romancier s'il avait pu vivre plus longtemps?
Un grand, je ne sais pas. mais il parle de ce désir dès les années 60, hein, très tôt. Et est-ce qu'il aurait sauté le pas ou non? Je ne sais pas. Ça aurait été possible. Ça, c'est une interprétation très subjective. Mais pour moi, il y a un effet d'âge qui joue. Puisqu'il n'est pas le seul qui, à partir d'un certain seuil dans le développement de sa vie, se dit « Eh bien, j'ai peut-être d'autres choses à dire qui me permettent d'aborder des problèmes que je ne peux pas aborder par la voie de l'essai ou la voie de la science, que je ne peux aborder qu'en imaginant des situations et des narrations. » Et peut-être qu'il l'aurait fait. Je dis ça parce que je pense à Genette, qui était le grand formaliste et le grand poéticien jusqu'à la fin de sa carrière universitaire, mais qui, après, a commencé à écrire des souvenirs. Des souvenirs, c'est pas le vrai mot, mais des fragments. Et où on voit bien que ce qui importe, ce n'est pas simplement qu'il veut raconter, qu'il veut ramasser sa vie, mais qu'il veut construire quelque chose avec cela, cette écriture très fragmentaire qu'il adopte dans ses textes. Donc c'est peut-être quelque chose qui aurait joué aussi dans le cas de Barthes. Je trouve des éléments romanesques même dans il y a ce texte très beau qui est de cette promenade à flanc d'Oued là où on voit bien qu'il a un rapport au paysage. Il suffirait de mettre quelques personnages dedans et le récit pourrait démarrer certainement.
Oui. Ces textes autobiographiques de la fin de sa vie qui ont été publiés dans le recueil Incident sont très proches du romanesque.
La question que je me pose, c'est quel romanesque est-ce que ça aurait été? Est-ce que ça aurait été le romanesque que nous connaissons beaucoup aujourd'hui, qui est très lié à la vie personnelle du romancier et tout ce qui relève de l'autofiction sous toutes ces variétés? Ou est-ce qu'il aurait développé un romanesque plus allons voir ailleurs? Que dans son propre passé, je n'en sais strictement rien.
C'était un Proustien, je pense que l'essentiel pour lui, c'était plutôt l'autobiographie et peut-être le témoignage d'une expérience esthétique, vitale aussi.
C'est bien possible, mais Proust n'est peut-être pas le bon exemple, parce que pour moi, en tout cas, Proust, c'est celui qui, certes, part de là, mais va ailleurs. C'est-à-dire que la recherche du temps perdu, c'est quand même pas des souvenirs. C'est pas, même si ça utilise des souvenirs, mais un peu comme si on connaît bien la biographie de Joyce, et si on connaît bien Dublin et tout ça, eh bien, on pourrait dire que Ulysses et aussi Finnegan's Wake, c'est Joyce et sa ville. Et c'est vrai que c'est ça. Mais c'est les matériaux, et ça me permet de rebondir sur la question du style. Je pense que c'est le fait de le former, de former les matériaux. Donc c'est bien cette activité structurale qui implique un style, c'est-à-dire une manière de faire ou des manières de faire qui établissent des correspondances entre ce qu'on a à dire et la manière dont on le dit. Et la lecture esthétique, c'est cela. C'est de ne pas laisser de côté le matériau linguistique pour s'intéresser qu'aux idées ou aux imaginations, mais de toujours être ramené par les imaginations qu'on développe aux matériaux. Et le matériau nous ramène de nouveau vers les imaginations. Et c'est en cela que la poésie, au sens technique du terme, est exemplaire, parce que la poésie, elle fait cela en permanence. Parce qu'elle nous, par ses images ou par ces rapprochements incongrus entre différents sémantèmes, elle nous lance vers l'imagination, donc vers aller loin. Mais en même temps, par l'insistance qu'elle donne à la forme linguistique, que ce soit par des procédés conventionnels comme la rime, etc., ou que ce soit par des procédés de créativité purement individuelle pour tel ou tel poème, mais qui rend prégnante la forme linguistique dans ces niveaux différents, que ce soit le niveau phonétique, le niveau des syllabes, le niveau de la syntaxe. Mmh. Donc on est toujours ramené de nouveau vers la forme, et puis on rebondit de l'attention qu'on accorde à la forme vers d'autres significations. Et voilà, je pense que c'est vraiment ça aussi qui fait la... En tout cas pour moi, qui fait le prix de ces textes, c'est que, et c'est très rare, c'est que dans ces textes, on ne peut pas séparer ce qui est dit de la façon dont c'est dit. Voilà, alors que, voilà, quand je fais de la philo, on peut vraiment détacher, heureusement d'ailleurs, ce qui est dit de la manière dont c'est dit.
Et dans beaucoup de romans aussi, on peut le faire.
Malheureusement, oui.
Malheureusement. Pour conclure, alors à la fin du livre, en fait, vous regrettez de ne pas avoir abordé certains sujets, ouais. Et notamment le sujet du plaisir, ouais. Cher à Roland Barthes, ouais. Et que nous aussi, dans le cadre de ce festival, nous avons voulu mettre en avant. Alors, quel est ce plaisir-là dont vous auriez aimé parler ?
Oui, j'aurais aimé parler, mais en même temps, j'en ai parlé déjà trop dans d'autres livres, mais voilà, j'aurais voulu en parler au sens où c'était une lettre et où Roland Barthes a joué par ses écrits un grand rôle dans le fait que je n'ai jamais cédé sur ce que je croyais, et je crois toujours être juste, à savoir que dans la relation esthétique, il y a une dimension intrinsèquement hédonique, donc de plaisir ou de déplaisir, et que si on enlève cela, eh bien, on détruit cette expérience. Et c'est une position qui a toujours été minoritaire, qui est encore minoritaire aujourd'hui, pour de multiples raisons, dont certains sont des malentendus, mais je crois qu'elle est absolument vitale si nous voulons comprendre pourquoi les êtres humains s'intéressent à l'art. Si nous enlevons cette dimension-là, eh bien, cet intérêt devient en grande partie incompréhensible. Et Barthes a toujours mis en avant, et au fil du temps de plus en plus, parce que, bizarrement d'ailleurs, moins la société acceptait encore cette vision hédonique, et plus lui l'a développée. Donc il était à contre-courant, vraiment. Quand on regarde ses écrits des années 70, c'était déjà à contre-courant. C'est l'époque des années 60 avec la recherche du plaisir et tout ce qu'on veut, enfin ce qu'on disait rétrospectivement, était bien fini déjà dans les années 70. Et c'est à ce moment-là que lui, il insiste le plus sur ces aspects-là. De même que je trouve très, très remarquable que dans la leçon inaugurale qu'il a prononcée au Collège de France, il ait gardé cette distance par rapport à ce qui lui arrivait, et aussi cette sorte de « je ne veux pas vraiment faire ce qu'on attend de moi ». Je ne vous promets pas que je vais faire ce que je devrais faire, étant donné la position que vous m'avez fait l'honneur de me faire occuper. Donc il y a, pour moi, une radicalisation de quelque chose qui était là depuis toujours, et une radicalisation qui est vraiment à contre-courant de l'évolution de la société. Et donc pour moi, ça a toujours été une leçon de... en tout cas d'indépendance d'esprit, voire de courage, étant donné que le milieu dans lequel se fait la vie intellectuelle est un petit milieu, et un milieu dans lequel ce qui est à l'ordre du jour est à l'ordre du jour, et pas autre chose. Donc voilà, il ne s'est pas lassé, je dirais, influencé. On a pu lui reprocher de s'être lassé, influencé par les rêves, je ne sais pas, les rêves de lendemain qui chantent dans à la fin des années 60, mais même là, c'était quand même très, très sotto voce. C'était pas vraiment un grand enthousiasme. Mais en revanche, quand il s'agissait de ce qui lui paraissait vital pour ce qu'il considérait être la vie, eh bien, il ne cédait pas. Et je trouve que ça, c'est une grande leçon.
Et justement, si on recontextualise, si on pense à ces notions-là aujourd'hui, moi, j'ai quand même le sentiment qu'on vit dans une société faussement hédoniste, justement. Et c'est pour ça aussi que ces textes, quand on relit les textes de Roland Barthes aujourd'hui, on est saisi par cette particularité de
oui,
sa pensée.
Oui, mais je pense aussi... l'hédonisme, c'est vraiment... c'est quelque chose... C'est une partie de, je dirais, de notre bagage biologique que nous ne pouvons pas refuser parce que nous sommes ainsi faits. Donc ça, c'est déjà le point de départ. Mais l'hédonisme n'a pas eu de malchance du point de vue théorique, ou plutôt ce qu'on entend par là, on peut dire que ça a été toujours mal compris parce qu'on a toujours construit une opposition entre hédonisme et... et connaissance, par exemple, ou hédonisme et éthique, enfin, toutes ces autres. Mais ça n'a strictement rien à voir. Du point de vue mental, l'hédonisme signifie tout simplement que nous ne pouvons pas, quand nous nous engageons dans des activités, quelles qu'elles soient, ne pas les évaluer positivement ou négativement. C'est notre esprit ou notre cerveau qui fait ça. Tout ce qui nous arrive est en même temps, et tout ce que nous faisons est évalué positivement ou négativement. Hédonisme, ça veut dire ça. Et dans l'expérience esthétique, ça ne veut dire rien d'autre. C'est-à-dire dire que dans l'expérience d'une œuvre d'art, le plaisir joue un rôle, ça veut dire simplement que, par exemple, si l'expérience est satisfaisante, ça ne veut pas dire que je ressens du plaisir. Ça veut simplement dire que je suis intéressé à la continuer, c'est tout. Voilà. Mais c'est du point de vue subpersonnel ou inconscient, comme vous voulez, eh bien, il y a eu un calcul, ce qu'on appelle un calcul hédonique, qui a fait que eh bien, la somme de ce que je retire de cette expérience est plus positive que négative. Et c'est une activité qui se déroule en permanence dans notre... Vous là et moi ici, on fait ça tout le temps. Vous vous dites, il est ennuyeux. Et donc ça... Hop. Voilà. Et moi, je dis, je suis angoissé, je dis, voilà. Et donc, ça, c'est un autre. Mais c'est aussi, c'est négatif du point de vue de la valence hédonique. Et donc, l'hédonisme n'est pas une valeur. C'est simplement une composante de la manière dont nous nous rapportons à nous-mêmes et au monde. Et dans l'expérience esthétique, eh bien, comme l'expérience esthétique, c'est quelque chose qui n'a pas directement des prolongements dans la vie. Lorsque je vais au théâtre, je ne saute pas sur la scène pour dire « Arrêtez, stop, ne tuez pas ce pauvre... » Donc, je sais que c'est une pièce de théâtre. Donc, il n'y a pas d'effet immédiat, sauf quelques cas pathologiques, mais il n'y a pas d'effet immédiat de ce type-là. Et cela fait que, eh bien, ce qui peut jouer le rôle déterminant, c'est cette valence hédonique positive ou négative, parce que voilà, c'est dans un espace protégé. Et les œuvres d'art, si vous y regardez, je sais qu'il y a des artistes qui n'aiment pas ça, mais ça se passe toujours dans des cadres pragmatiquement circonscrits. Même l'art de la rue, même les happenings des années 60, qui voulaient justement séparer totalement, on construit toujours un cadre pragmatique qui fait que les gens peuvent interagir en sécurité pendant que ce spectacle a lieu. Et donc, c'est très, très important et on ne peut pas, je crois qu'il faut l'accepter. Mais ça n'a rien à voir avec l'idée que ce qui importe, c'est les œuvres les plus simplistes, parce que ce n'est pas les œuvres les plus simplistes qui produisent les évaluations hédoniques les plus positives, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, voilà, je trouve que c'est un faux débat et ça n'a rien à voir avec ce dont vous parlez, et qui est un autre problème. Vous avez bien parlé de faux hédonisme ou de pseudo-hédonisme, qui est tout à fait autre chose, qui est un vrai problème de société, je pense, qui n'a pas grand-chose à voir, heureusement, avec l'art, mais qui pose un rapport de la manière dont nous vivons notre rapport à autrui et notre rapport à nous-mêmes et notre rapport à notre vie qui pourtant est finie, n'est pas longue. Mais voilà, il y a une sorte d'hédonisme qui nous fait oublier ça.
Oui. Écoutez, Jean-Marie Schaeffer, je crois qu'on va s'arrêter là.
Et merci en tout cas de m'avoir écouté.
Merci.
Merci à vous tous.